Le journal. Bonjour Bernadette Chemonaz.
Bonjour. Tester toutes les personnes âgées dans les EHPAD, le dépistage massif prévu par le gouvernement est-il une fausse bonne idée? Des soignants s'interrogent. Explication. Après les meetings en hologramme, Jean-Luc Mélenchon lance les meetings confinés. 20 000 personnes ont suivi le premier sur les réseaux sociaux. Quand les monarchies du Golfe font payer la note aux migrants devenus inutiles dans une économie à l'arrêt, ils sont expulsés sans ménagement. Et puis en France, confinement et désagrément quand votre voisin se transforme en bricoleur quotidien.
Et l'invité ce matin à partir de 8h20, ce sera le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie. Posez-lui vos questions sur les loyers, l'immobilier ou la vie en ville. 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand le virus bouscule les repères.
Oui, c'est un double témoignage d'abord que l'on va entendre pour commencer ce journal. Celui d'une mère et de son fils. À 8 ans, Lucas veille sur sa maman, infirmière. Elle vient d'être testée positive au coronavirus. Lucas dépasse sa peur. Il est d'abord et avant tout fier de sa mère.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 8 ans et je suis en classe de CE1.
Je m'appelle Ingrid, j'ai 36 ans et j'ai travaillé pendant un mois en passant au travers des gouttes, mais malheureusement, je fais partie des personnes atteintes par le Covid-19.
Je l'ai compris parce qu'elle est rentrée un jour avec le masque à la bouche. Elle n'était pas très très bien. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit que ça allait aller.
Forcément, on travaille avec un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Je trouve que c'est bien son travail parce que elle aide des personnes âgées à retourner chez soi, à ne pas avoir de maladie. Bah, ma maman, si ce serait une héroïne, ce serait Ladybug. Bah, c'est Miraculous. C'est une coccinelle.
C'est rigolo. Bah, c'est un petit dessin animé qui regarde quand même souvent, donc c'est marrant. L'image est sympa. Je me dis que même dans des situations comme ça, il reste encore plutôt rêveur et c'est bien, quoi.
Je trouve qu'elle ressemble à une coccinelle. Elle a confiance en elle. Elle est solide. Elle attaque les méchants. Oui, je suis fière de ma maman.
Oui, les coccinelles, comme les soignants, porte-bonheur, paroles croisées d'une mère et de son fils, recueillies par Cécilia Arbona. Pour le 9e jour d'affilée, c'est une bonne nouvelle. Le nombre de personnes en réanimation est en recul en France et c'est très net, notamment dans le Grand Est, avec moins 16% de personnes suivies dans ces services. Cela dit, les soignants persistent à appeler au respect du confinement et au maintien d'une grande vigilance après le 11 mai.
Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, ne demande plus à ce que les personnes âgées restent confinées après cette date.
Et c'est un changement de pied très net du président de la République par rapport à son allocution de lundi dernier. Ce jour-là, il annonçait que les personnes âgées devraient rester confinées après le 11 mai. Hier soir, l'Élysée a apporté des précisions. Ce ne sera pas une contrainte, mais une recommandation. Les associations avaient, il faut le dire, alerté sur une discrimination et sur une grande souffrance des personnes âgées. Pour desserrer justement l'étau dans les EHPAD, permettre de confiner uniquement les personnes malades, le ministre de la Santé a annoncé l'organisation d'un dépistage massif dans ces établissements. Il se met lentement en place, mais des médecins s'interrogent, Hélène Chevalier. Et si une mauvaise interprétation des résultats pouvait avoir un effet inverse?
Le docteur Sarah Thomas fait partie d'une équipe mobile qui assiste les EHPAD de l'Est francilien depuis le début de la crise.
Depuis quelques jours, on a l'injonction d'organiser les dépistages massifs des résidents par des PCR. Et effectivement, on s'interroge un petit peu sur l'utilité de ce test et surtout ce qu'on va faire des résultats.
Car si ces tests sont intéressants pour repérer les résidents ou les soignants positifs et les isoler, avec ses collègues infectiologues et hygiénistes, la gériatre s'inquiète des mesures qui pourraient être prises pour les personnes âgées dont le test serait négatif.
On sait qu'il y a un nombre assez important de faux négatifs et on craint un petit peu que, parce que la personne est négative, on la considère comme non porteuse et qu'on lève des mesures de confinement ou d'isolement en fonction de cette négativité du test, ce qui serait catastrophique. Il ne faut pas lever l'isolement parce qu'ils vont contaminer l'ensemble de l'institution et les soignants. On risque une récidive, une nouvelle vague dans les EHPAD liée à des résultats faussement négatifs.
D'autant que beaucoup de directeurs d'EHPAD demandaient ces tests massifs pour pouvoir notamment adapter, voire lever l'isolement en chambre, souvent mal supporté par les personnes âgées. La gériatre psychiatre demande donc que des consignes claires soient passées aux directeurs et aux infirmières coordinatrices des maisons de retraite.
Hélène Chevalier, le maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine a perdu son bras de fer judiciaire. Hier soir, le Conseil d'État a confirmé l'annulation de son arrêté sur le port du masque obligatoire dans sa ville. Argument, un maire ne peut prendre de mesures plus restrictives que celles de l'État, sauf circonstances particulières à la commune. Les députés ont rectifié le budget de crise, 2 milliards d'euros supplémentaires qui vont permettre notamment aux parents arrêtés pour garde d'enfants et aux salariés arrêtés parce qu'à risque de basculer à partir du 1er mai dans le dispositif chômage partiel. Pour Jean-Luc Mélenchon, pas question en tous les cas d'union sacrée autour du gouvernement. Le leader de la France insoumise organisait son premier meeting confiné hier, suivi par 20 000 personnes tout de même sur les réseaux sociaux, 90 minutes au cours desquelles il n'a eu de cesse de pointer les manquements du gouvernement. Laurence Perron.
Un petit attentat des oreilles pour commencer. Sur la forme, un meeting classique des militants confinés en mosaïque sur l'écran. Jean-Luc Mélenchon à la tribune et le coordinateur du mouvement Adrien Quatennens en vidéo.
Certains ont tenté de jouer l'amnistie.
Jean-Luc Mélenchon dénonce les errements dans la gestion de la crise.
La France humiliée à attendre qu'on veuille bien lui livrer les masques qui arriveraient de Chine après qu'on se les soit volés en Hongrie, en Tchéquie, en Italie.
Un déconfinement au 11 mai qu'il juge hasardeux. Sa solution, il le redit.
Planifier les moyens que l'on met en œuvre. Ah, le mot planifier. Aussitôt, certains font des doubles sauts périlleux arrière et s'évanouissent. Ça serait l'Union soviétique.
Pour sortir de la crise, il réclame une véritable solidarité européenne.
C'est cette dette qui est un mur dorénavant qu'il faut abattre.
Une petite adresse au président de la République.
Ton programme nous a conduit au désastre, mais pas le nôtre. Parle pour toi, président de la République.
Puis il s'enflamme.
Il faut produire des millions de masques dans le Maghreb et dans l'Afrique. Je veux qu'atterrissent pour une fois les avions bleu-blanc-rouge pour amener autre chose que des militaires.
Avant de céder la parole à la députée du groupe Caroline Fiat, qui a remis sa blouse d'aide-soignante pour aider.
S'il vous plaît, restez chez vous.
Le reportage de Laurence Perron. Eux, dans le monde, ils sont devenus les boucs émissaires du coronavirus.
Pour les migrants déjà en situation précaire, c'est la double peine. Dans les monarchies du Golfe, les économies confinées sont à l'arrêt et les autorités se débarrassent tout simplement de dizaines de milliers de travailleurs étrangers bon marché, employés habituellement dans la construction ou dans le tourisme et l'hôtellerie. Aurélien Colli.
Ils sont venus au Qatar pour construire le pays, en particulier les stades de la Coupe du Monde de foot en 2022. Ils sont maintenant confinés dans des quartiers dortoirs, bouclés par la police, sans ressources, ou renvoyés dans leur pays d'origine, sans ménagement. Certains travailleurs ont été approchés par la police, qui leur a dit qu'ils allaient passer les tests du coronavirus. Ils ont été mis dans des bus, détenus dans des conditions épouvantables, puis renvoyés par avion, explique Mère Romanos d'Amnesty International. Selon les témoignages recueillis par l'ONG, il n'y a eu en réalité aucun des pistages, les salaires n'ont pas été payés et aucune indemnité versée. Même méthode dans les pays voisins. Au Koweït, aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite, plusieurs milliers de Népalais, d'Indiens, de Philippins ou d'Éthiopiens privés de travail à cause de l'arrêt de l'économie, renvoyés chez eux ces dernières semaines. Cette pandémie ne peut pas être utilisée comme prétexte pour violer encore un peu plus les droits de cette main-d'œuvre déjà bafouée dans les pays du Golfe, insiste encore la représentante d'Amnesty International, en appelant ces États à cesser ces expulsions déguisée en mesures sanitaires et a traité décemment ces travailleurs qu'ils ont eux-mêmes fait venir. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Moins dramatique, bien sûr, les conséquences du confinement en France, mais certaines deviennent franchement insupportable au fil des jours. Ce voisin, par exemple, qui profite de l'occasion pour se transformer en bricoleur, non pas du dimanche, mais de tous les jours. Enquête de voisinage de Jérôme Val.
Là, en ce moment même, il y a du bruit, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Mais...
Tous les matins de la semaine, Héloïse a droit au marteau ou à la perceuse en guise de réveil.
On dort tous assez mal, ce qui fait que du coup, le matin, je suis réveillée à 8h. Alors que je me suis endormie à 4 ou 5 heures, donc en fait je dors pas assez. Au niveau du moral, c'est un peu compliqué.
La jeune femme habite au 5e étage d'un immeuble parisien dans le 3e arrondissement. Le chantier a démarré il y a 2 semaines dans l'appartement juste en dessous du sien.
En temps normal, à faire des travaux, enfin je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de problème. Mais moi normalement, je suis pas censée être chez moi, je suis censée être au travail. Mais là, on est chez nous toute la journée, on doit faire du télétravail et du coup, ça devient compliqué quoi, au niveau du bruit.
Limiter les travaux en intérieur dans la journée, Paris, compliqué, comme l'explique le maire du 17e arrondissement de la capitale, Geoffroy Boulard a bien tenté de les restreindre en vain.
La police du bruit, c'est une compétence préfectorale. Moi, je demande simplement, est-ce que il y ait des mesures temporaires, en tout cas qu'on interdise le marteau-piqueur. Les travaux un peu plus lourds, eh bien, ils ont des conséquences sur la santé des habitants, sur le moral et sur l'ambiance dans l'immeuble. Je crains que la tension monte dans certains immeubles.
Une montée des conflits de voisinage, voilà bien un problème qu'on aurait pu s'éviter en ce moment, déplore l'élu.
Alors pensez notamment aux soignants qui rentrent au petit matin de l'hôpital et qui ont besoin de se reposer dans la journée.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz.